Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest et la lutte contre les djihadistes au Sahel. Nouvelle attaque hier contre une église catholique dans le nord du Burkina Faso. 4 fidèles ont été tués pendant une messe à Toulfé, un village de la province du Yatenga. Les attentats contre les chrétiens se multiplient dans cette région. Jean-Roger Bion.
L'évêque de Waiguya, Justin Kietega, a annoncé que la communauté chrétienne de Toulfé était réunie pour la prière dominicale. Des individus lourdement armés ont attaqué l'église vers 9h, locale GMT, au moment où les fidèles célébraient la messe. Selon un habitant de Toulfé, cette attaque a occasionné une panique dans le village où de nombreux habitants se sont réfugiés chez eux ou dans la brousse. Des renforts ont été déployés sur les lieux. Les attaques attribuées à des groupes djihadistes contre les églises ou des religieux chrétiens se sont multipliées récemment au Burkina. Le 13 mai, 4 catholiques ont été tués lors d'une procession religieuse en l'honneur de la Vierge Marie à Zimtenga. La veille, 6 personnes, dont un prêtre, avaient été tuées lors d'une attaque pendant la messe dans une église catholique de Dablo. Le 29 avril, 6 personnes avaient été tuées lors de l'attaque de l'église protestante de Silgadji, toujours dans le nord. Plusieurs imams ont également été assassinés par les djihadistes dans le nord depuis le début des attaques il y a 4 ans. Ces attaques sont attribuées à une douzaine de groupes djihadistes, dont Ansarou l'Islam, le groupe de soutien à l'islam aux musulmans et l'organisation État islamique au Grand Sahara.
Toujours concernant le combat anti-djihadiste au Sahel, au Nigeria, les recherches continuent pour retrouver les soldats portés disparus après une attaque des combattants de Boko Haram affiliés au groupe État islamique samedi, qui a coûté la vie à au moins 5 militaires dans le nord-ouest du pays. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont ouvert le feu sur un convoi civil dans le district de Damboa, dans l'État du Borno, situé dans le nord-est du Nigeria. Les militaires escortaient des habitants du village de Sabongarin dans une douzaine de véhicules pour les amener dans un camp de déplacés dans la ville de Damboa. Un milicien qui combat aux côtés de l'armée a indiqué que tous les civils ont pris la fuite. Les attaques se sont accélérées ces dernières semaines dans cette région à 130 km de la capitale du Borno Maïdougouri et l'évacuation du village avait commencé jeudi. Le mois dernier, les djihadistes ont mené un raid contre la base militaire de Mararabar Kimba à seulement 3 km de là, faisant 5 morts. 30 soldats sont toujours portés disparus. Lundi, des combattants de l'ISWAP ont attaqué la base de Goubio à 80 km de Maïdougouri, faisant au moins 3 morts. Mais le groupe qui a revendiqué l'attaque a affirmé en avoir tué 20.
On reste en Afrique de l'Ouest. Au Mali, les inondations de mi-mai à Bamako, la capitale, ont fait 324 sinistrés. Certains ont été pris en charge par l'État, d'autres sont toujours à la recherche de nouveaux droits. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
C'est un ancien centre de formation professionnelle que le gouvernement a mis à la disposition des sinistrés des inondations du 16 mai 2019. Assetou Koulibaly, ménagère, raconte.
À 4h du matin,
il pleuvait. Je dormais. J'ai été réveillée par ma fille à cause de la pluie. Aussitôt, j'ai dit à mon fils et à sa femme de se suspendre au mur. Mon enfant est venu m'annoncer que la maison est tombée et que ma petite fille et ma belle-fille sont mortes.
Dans la vaste cour du centre mavillais de Sogoninko, les quelques rares sinistrés encore là ne sont pas prêts à oublier les inondations du 16 mai dernier.
Quand il a commencé à pleuvoir, nous dormions. Aussitôt, nous nous sommes précipités pour arranger nos affaires. Nous avons tout perdu. 3 enfants ont perdu la vie.
Tout ce qu'on avait comme matériel, nourriture, l'eau est rentrée. Ce qu'on a pu sauver, on a sauvé. Ce qu'on n'a pas pu sauver, parce que l'eau était montée jusqu'à 1 mètre.
Chaque année, nos maisons sont inondées. Il y a toujours des morts et des dégâts matériels. Nous avons besoin d'aide. Plusieurs maisons sont tombées.
Lieutenant-colonel Bakary Daou, directeur régional de la protection civile de Bamako.
On n'est pas en saison de pluie et les gens sont surpris par une forte pluie. Et cette pluie, je ne maîtrise pas la quantité tombée, mais c'est une forte pluie qui n'a pas l'habitude de tomber même pendant la période hivernale. Et le second aspect, c'est que les gens ne sont pas préparés pour la saison hivernale et que les caniveaux sont bouchés. Au-delà de l'ancrage des caniveaux, et les habitants sont installés d'une façon anarchique au niveau de l'île de Marigot.
Au Mali, on apprend que 55 à 338 mm d'eau ont été enregistrés par endroit. Moussa Touré, représentant observation des prévisions à Mali Météo.
Nous
nous avons eu enregistré dans une de nos stations à Sotiba 138 mm et à Bamako ville nous avons eu environ 58 mm, ce qui explique justement la disparité entre les quantités de pluie. Qu'à cela ne tienne, 138 mm, on a dépassé largement le seuil d'alerte rouge. Ce seuil est fixé à 73 mm pour Bamako.
Si certains sinistrés sont en location grâce au soutien de l'État, d'autres sont restés sans maison, comme la vieille Assetou Koulibaly de Nyamakoro.
Ils sont pris en charge sur le plan psychologique, sur le plan sanitaire aussi bien, sur le plan nourriture. C'est pas suffisant. Des dispositions sont en train d'être prises, et aujourd'hui d'ailleurs, pour que ces sinistrés-là puissent regagner peut-être d'autres maisons en location avec un accompagnement. C'est ce qu'on nous a dit quand même du côté du ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Nous avons des logements sociaux qui sont construits et je pense que quelques sinistrés peuvent en bénéficier.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Contestation au Soudan, le principal parti d'opposition a annoncé dimanche rejeter la grève générale prévue demain mardi par les leaders de la contestation. En pleine impasse dans les négociations avec les militaires sur une transition politique dans le pays, ce rejet reflète une division au sein du mouvement qui fait pression sur l'armée en vue d'un transfert du pouvoir aux civils. Le point avec Fidèle Niangabo.
En réaction à l'impasse des discussions avec les généraux du Conseil militaire de transition, l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, et fer de lance du mouvement de contestation, avait appelé vendredi à une grève générale, les 28 et 29 mai, soi-disant contrainte de recourir à cette action pacifique faute d'alternative. Le parti Al-Houma, dirigé par l'ancien premier ministre Sadek Al-Mahdi et membre de l'ALC, a estimé qu'une grève générale est une arme qui ne devrait être utilisée qu'après avoir fait l'objet d'un consensus, appelant à maintenir l'unité au sein de cette alliance. Un autre acteur majeur au sein de l'ALC, le parti du Congrès soudanais, a lui exprimé son adhésion à la grève générale peu après l'annonce d'Al-Houma. Plusieurs corporations professionnelles allant des banquiers aux médecins ont répondu favorablement à l'appel à la grève. Les négociations entre le Conseil militaire et l'ALC ont été interrompues le 20 mai en raison des désaccords sur la composition du futur Conseil souverain qui doit être mis en place pour gérer la transition. L'ALC exige que cette instance soit présidée et composée majoritairement de civils. Les généraux souhaitent à l'inverse prendre la tête de cette instance et obtenir la majorité des sièges. Le Conseil souverain doit se substituer au Conseil militaire pour une période de 3 ans avant la tenue des premières élections post-Béchir.
En République démocratique du Congo, les recherches continuent sur le lac Maïndombe dans l'ouest du pays pour retrouver les survivants du naufrage samedi soir d'une embarcation sur le lac qui a fait au moins 30 morts et des dizaines de disparus. Selon Simombo Wamba, le maire d'Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe, il y a 183 rescapés. L'embarcation transportait plus de 350 passagers, mais le nombre exact d'occupants est difficile à établir en raison de la présence de clandestins sur le bateau. Et élection au Malawi, la justice du Malawi a repoussé dimanche à une date indéterminée la publication très attendue des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 21 mai, et ce dans un climat de confusion et de tensions croissantes dans le pays. Samedi dernier, la haute cour de la capitale Lilongwe a ordonné à la commission électorale de recompter tous les bulletins de vote dans un tiers des districts électoraux du pays à la demande du principal parti d'opposition qui a fait état d'irrégularité. Les derniers chiffres diffusés jeudi dernier, après dépouillement de 3/4 des bureaux de vote, accordaient un avantage au chef de l'État sortant Peter Mutharika, crédité de 40,49% des suffrages, devant son rival du Parti du Congrès du Malawi, Lazarus Chakwera, avec 35,44% des voix. Et pour terminer, actualité américaine, le président Donald Trump a maintenu ce lundi la pression sur le Japon pour réduire le déficit de la balance commerciale entre les deux pays. Et ce, à l'occasion d'un sommet avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président des États-Unis a promis de faire très prochainement des annonces qui lui permettront, selon lui, de corriger le déficit de la balance commerciale américaine avec le Japon. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.